7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Dans 10 minutes, la chronique de Ludovine de La Rochère, puis l'analyse de Jean Messia, mais tout de suite, donc, la chronique de Jean de Gana avec Richard de Seize.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et bonjour Jean-Luc Gana.
Comment allez-vous?
Eh bien, fort bien, merci beaucoup. Alors, de quoi nous parlez-vous ce matin?
Bien évidemment, je vais vous parler de justice et de magistrature.
Encore
que j'avais promis hier que je ferais une vidéo à la sortie du délibéré pour mon affaire sur les Afghans. Voilà, que je ferais une vidéo spéciale pour Ligne Droite. J'ai pas pu, donc je vais me rattraper en parlant lors de ma chronique de ce matin. J'ai donc été condamné hier assez lourdement, je dois dire, pour cette petite vidéo anodine devant le Leclerc. Condamné donc à peu près 4 655 euros, je crois, à débourser, alors en diverses choses, hein, amendes, dommages et intérêts, remboursement de frais de justice, pour à la fois donc les quatre plaignants, hein, les réfugiés afghans, qui gagnent, là, je pense, avec cette affaire, plus qu'un SMIC afghan, hein, sans aucun problème, mais aussi, et ça, c'est ça le vrai scandale, enfin, tout est scandaleux, mais disons que c'est ça qui me scandalise le plus, mais aussi, je suis condamné à dédommager SOS Racisme. Voilà. Cette entreprise ignoble de culpabilisation des Français qui vit sur ce sentiment de culpabilité et sur les magouilles judiciaires et sur les persécutions politiques continue de faire du mal. Et donc, SOS Racisme s'en tire très bien. Hein. C'est une très belle opération pour SOS Racisme parce que j'ai le jugement sous les yeux là. Je crois qu'SOS Racisme va toucher donc 500 euros en réparation du préjudice moral, hein, parce que je crois que cette vidéo sur les Afghans a fait beaucoup de mal moralement à SOS Racisme, plus 800 euros au titre de l'article 475.1 du Code de procédure pénale. Je crois que c'est donc pour les dédommager de leurs frais de justice. Voilà. En gros, ils envoient un avocat, ça permet de payer leur avocat et de faire un petit peu de beurre. Voilà. C'est exactement ce que l'on appelle des profiteurs de guerre. J'avais aussi face à moi la LDH, hein, qui touche un petit billet. Ce sont vraiment les profiteurs de guerre. Ce sont des gens qui vivent financièrement sur la misère des uns et sur les frustrations des autres, puisque en réalité, cette petite vidéo et notre critique de l'immigration en général n'est que l'expression politique d'une frustration grandissante du peuple français qui ne se sent plus chez lui. Voilà. Alors, la petite bonne nouvelle, hein, c'est que dans ce jugement sont annulés tous les procès-verbaux de garde à vue parce que les juges ont quand même estimé que voilà, il fallait me condamner durement pour ce que j'avais dit, mais que peut-être que la procédure avait été un petit peu trop sévère dans le déroulé. Voilà, donc jugement rendu. Désormais, je donne les noms des juges, pas du tout pour les vouer aux gémonies ou autres, mais simplement parce que, vous voyez, moi, je suis traiteur. Par exemple, sur Internet, pour un restaurant, il y a un avis Google. Donc, quand on fait son travail, en bien ou en mal, il est bien que, voilà, on puisse l'assumer. Vous agissez à visage découvert également. Donc, voilà, donc le président de ce tribunal, c'était Monsieur Lionel Assensi. Et les assesseurs, donc la magistrate honoraire Géraldine Bercovici et Madame Agnès Tanguy, voilà, avec la présence évidemment de mon impresario préféré, Éric Bouillard. Bon, ceci fait, et je crois qu'il faut le faire parce qu'il faut citer un peu les bourreaux du peuple français de temps en temps, je réfléchissais en rentrant hier chez moi et je me disais, mais comment va-t-on s'en sortir? Puisque j'ai vu Jean-Yves Le Gallou cette semaine, que vous avez dû recevoir, je sais que vous l'avez reçu par rapport à son livre sur la remigration. Et Jean-Yves parle de plus en plus de juge exit. Parce qu'en effet, si la droite nationale prend le pouvoir en 2027, il faudra bien qu'elle compose avec la magistrature française, avec la justice française. Alors, comment appliquer une politique de droite avec une telle justice? Bon. Alors, évidemment, il faudra proposer une énième réforme de la justice, mais une vraie réforme, celle-là, parce que jusqu'ici, ce sont toujours des petites mesurettes qui ne changent pas les choses en profondeur. Alors, bien évidemment, il faudra plus de moyens, puisque là, je sens poindre... J'ai vu un communiqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, Richard, du syndicat de la magistrature.
Alors, j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu un de l'USM, effectivement.
Oui, j'en ai vu un là récemment, depuis l'affaire Liana, où ils disent qu'en gros, les populistes surfent sur la haine des juges et des magistrats, mais qu'en réalité, ils ont moins de moyens. Alors, je me suis un peu renseigné, enfin, moins de moyens que dans les autres pays européens, et que c'est une des raisons des dysfonctionnements dans l'affaire Liana. Et je me suis renseigné, et en effet, la France dispose de 2 fois moins de juges professionnels que la moyenne européenne, et même de 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne. Donc, c'est quand même un véritable problème. Pour donner un ordre de grandeur, le ministère de la Justice comptabiliserait environ 11,6 juges professionnels pour 100 000 habitants en 2024, soit une très légère progression par rapport aux années précédentes, mais donc 4 fois moins que la moyenne européenne. Bon, une fois qu'on a dit ceci, pour faire plaisir aux gens du syndicat de la magistrature et essayer de ne pas figurer sur le mur des cons, il faut quand même proposer quelques réformes pour finir avec cette espèce de gauchisme structurel de la justice en France. Parce que on pourra pas licencier 95% des magistrats comme ça du jour au lendemain. Alors d'abord, je propose, hein, si voilà Jordan Bardella, Marine Le Pen et tous les candidats de droite, si vous m'écoutez, je vous fais une proposition. Peut-être faudrait-il proposer une part de jury populaire dans toutes les affaires de violence. Ça existe aujourd'hui uniquement pour les cours d'assises. Mais je crois que dans toutes les affaires d'agression, de vol à main armée, etc., il faudrait qu'il y ait une part de jury populaire pour contrebalancer un peu le gauchisme structurel. Il faudrait évidemment désengorger les tribunaux, parce que les tribunaux n'ont pas assez de moyens, mais ils ont aussi trop de boulot. Et donc, pour rendre service au syndicat de la magistrature, il faut évidemment enclencher la remigration pour désengorger les tribunaux avec une déchéance systématique de nationalité pour tous les binationaux. Et le renvoi au bled pour purger leur peine dès que quelqu'un est condamné, même en première instance, quelqu'un d'origine étrangère, enfin de nationalité étrangère ou binationale, on le renvoie chez eux et voilà. Et après, on les laisse se débrouiller s'ils veulent faire appel. Il faudrait aussi, Julien Rogier en a parlé et on en avait parlé avec le mouvement Chouin. On avait fait une action là-dessus qui m'avait déjà valu de la garde à vue au moment de la mort du petit Matisse. On avait fait une action contre la magistrature laxiste. Et on avait proposé déjà le principe d'élection des procureurs et d'une partie des juges. Voilà, ça se passe aux États-Unis. Alors, je ne pense pas que les États-Unis soient un pays parfait, mais la part des juges élus et leurs compétences sont plus ou moins importantes selon les États. Et notons que, d'ailleurs, dans de nombreux États, pour éviter la dérive de la trop grande politisation de la justice, il y a des élections sans étiquette. Mais moi, de la même manière que je crois que les juges, les magistrats, doivent rendre des comptes à l'opinion publique. Hein. Je ne parle pas être jugé par la suite, quoique ça ne me dérangerait pas forcément dans certains cas, mais qu'au moins l'opinion publique soit au courant de qui juge et de comment sont jugées un certain nombre d'affaires. Voilà. Sans étiquette pour éviter que ça redevienne des élections politiques, politiciennes, mais tout de même. Et puis, étant donné qu'un très fort pourcentage des gens qui sont jugés dans nos tribunaux sont d'origine étrangère ou sont binationaux, je crois que la moindre des choses pour permettre plus d'objectivité et éviter une sixième colonne en France, ce serait de supprimer la possibilité de siéger quand on est binational. Moi, à titre personnel, je trouve tout à fait anormal de rendre la justice au nom d'un pays alors que l'on a une double allégeance. Bon. Mais en attendant ce jour béni, où déjà ces quelques mesures seraient mises en place, qui seraient obligatoirement d'ailleurs révisées par le Conseil constitutionnel, donc il faudrait sans doute que tout cela passe par un référendum, sans quoi on ne peut rien imposer au Conseil constitutionnel. Il faudrait exercer une pression constante sur les magistrats en attendant cela. C'est-à-dire que ce qui est totalement fou, c'est que la gauche sait, pour tous les procès médiatiques, faire pression sur les juges, faire pression sur les magistrats. Et nous avons une sorte de déférence pour l'ordre en général, fût-il hostile à nous, pour l'ordre, pour les commissaires de police politisés, pour les magistrats politisés, etc., qui est totalement aberrante. Je pense que 70% des Français, au moins, en ont marre du laxisme et de l'immigration. Alors, ma foi, exerçons une pression constante sur ceux qui rendent des décisions iniques et qui se comportent comme des petits bourreaux du peuple français.
Alors, toutes ces réformes sont excellentes. Il y a bien sûr de la part des magistrats une réaction qui est légitime. On en parlait avec Madame Pierra à l'antenne il y a quelques jours, sur le fait qu'il y a effectivement une justice qui, en France, est maltraitée par l'État. Il y a aussi la manière dont les tribunaux sont encombrés de plaintes aberrantes à cause de lois qui réussissent à criminaliser et à judiciariser n'importe quoi. Et il y a enfin, effectivement, la manière dont les juges ont décidé, et dans le cas de la procureure d'Auch, c'est évident, de s'occuper beaucoup plus des agriculteurs qui manifestent que de s'occuper des pédophiles qui rôdent. Donc, l'ensemble de vos réformes me paraît extrêmement bienvenu, avec malgré tout peut-être cette limite qu'il ne suffit pas que la réforme soit intelligente pour qu'elle soit appliquée. Et il y a aussi un vrai changement à atteindre de la part des politiques eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'être, frigorifiés devant la justice à cause des casseroles qui pendent à leur queue.
Ça, il est clair qu'il y a une utilisation de la justice pour empêcher les opposants politiques de s'exprimer, même Fillon, même Marine Le Pen, etc., qui explique en effet peut-être qu'ils soient réticents à prendre le taureau par les cornes. Mais je crois que c'est une erreur. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, si Sarkozy avait vraiment tenu ses promesses, notamment pour les réformes sur l'immigration et sur la justice en 2007, il ne se serait pas retrouvé en prison. Voilà, je crois que le manque de courage politique, on finit toujours par le payer. Donc, Sarkozy l'a montré. Donc, espérons que les autres ne suivent pas son mauvais exemple.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Yves Gana. On n'a pas eu le temps de revenir sur le jugement et notamment ce qu'on vous a reproché exactement, parce que je pense que les attendus du jugement sont passionnants. Mais nous y reviendrons peut-être. Mais j'attends votre vidéo avec impatience.
À bientôt. Merci, Richard. Au revoir.
Ligne droite.
Nous retrouvons donc Ludovine de la Rochère pour sa chronique hebdomadaire, présidente du syndicat de la famille. Alors, Ludovine de la Rochère, vous nous aviez parlé des états généraux de la bioéthique 2026 qui avaient commencé en janvier. Où en sont-ils ?
Bonjour Alexandre. Alors oui, en effet, je les avais évoqués parce que la loi de bioéthique donc, est révisée tous les 7 ans. La loi l'impose en France. Et avant toute révision de la loi de bioéthique, la loi prévoit également des états généraux de la bioéthique qui sont organisés par le Comité consultatif national d'éthique. Alors je mets des gros guillemets à éthique, hein, oui. Pour ce qui concerne le CCNE. Et donc ces états généraux de la bioéthique 2026 avaient commencé en janvier et effectivement viennent de s'achever avec une dernière réunion en visio lundi 8 juin.
Alors puisqu'ils viennent de s'achever, quel est le bilan que vous en tirez ?
Alors ce bilan en effet est désormais possible et il est d'autant plus intéressant que je peux comparer les états généraux de la bioéthique 2018 et les états généraux de la bioéthique 2026. Alors pour rappel, en 2018, l'objectif d'Emmanuel Macron c'était avant tout la légalisation de la PMA sans père, oui, qu'il avait annoncée et sur laquelle François Hollande avait échoué. Il avait dû retirer 2 fois son projet grâce à la manif pour tous. La méthode de Macron était d'annoncer qu'il légaliserait la PMA sans père s'il y avait consensus. Et pour cela, il comptait sur ce qu'il appelle un débat éthique. Mmh. Alors pour cela, le CCNE avait créé une plateforme de consultation, une vraie plateforme accessible, ouverte, sur laquelle on pouvait donner son avis, voter, commenter et sur laquelle toutes les réunions sur les sujets de ces états généraux étaient annoncés. Ces réunions étaient nombreuses, elles étaient importantes, elles étaient organisées physiquement. Finalement, il s'est bien sûr avéré qu'il s'agissait, avec cette forme-là, du fameux débat éthique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que pour lui, un débat éthique, c'est quand tout le monde s'exprime.
Oui.
Mais point, il n'y a pas de conclusion au débat,
il n'y
a pas de conclusion sur les positions. Et comprenant cela, évidemment, nous avions publié, à l'époque, la Manif pour tous, nous avions publié un document de 400 pages, un livre de 400 pages, avec les extraits de réunions, des prises de parole, des extraits assez larges du site internet, les commentaires, les arguments de ceux qui participaient, de manière objective, c'est-à-dire que nous citions et nous reprenions des exemples proportionnellement aux réponses. Par exemple, s'il y avait 90% d'arguments contre, au hasard, contre la PMA sans père, nous citions, nos citations étaient à 90% dans ce sens-là, mais nous citions aussi des positions dans le sens contraire.
Mmh.
Nous avions publié des captures d'écran et le pourcentage de réponses sur chaque thème. Par exemple, il y avait plus de 80% des réponses qui était opposé à la PMA sans père, plus de 90%, à la GPA. Autrement dit, nous avions fait un bilan réel, honnête, donnant très exactement l'image du débat. Au final, le CCNE avait bien été obligé quand même de constater qu'il n'y avait pas consensus.
Alors, pas de consensus. Et cette fois-ci, est-ce que le même schéma s'est reproduit?
Alors, en 2018, on les a gênés, puisqu'ils ont bien été obligés de reconnaître qu'il n'y avait pas consensus, il a fallu qu'ils passent au-dessus, qu'ils tordent un peu les choses en disant finalement qu'il n'y aurait de toute façon jamais consensus. Mais Emmanuel Macron voulait y aller et il y est allé. Alors cette fois-ci, ils ont pris une autre méthode, j'allais dire la méthode inverse. Ils ont complètement changé de pied. Donc, pas de plateforme web centralisée sur laquelle on puisse accéder à toutes les réunions, toutes les dates, tous les thèmes. Il n'y a eu aucune communication dans les médias. Ça a été d'une discrétion absolument extraordinaire. Et pas de plateforme. Donc, pas non plus de consultation ouverte à tous sur laquelle chacun pouvait donner son avis, voter et sur lequel les résultats étaient visibles. Nous avons noté par ailleurs que les réunions, en conséquence, étaient très difficiles à trouver. C'est-à-dire que ces réunions qui ont eu lieu là de janvier au 8 juin, il fallait aller rechercher les thèmes espace éthique régional par espace éthique régional. Rien n'était centralisé et en termes de questionnaires, il y en avait une petite dizaine répartis eux aussi sur tel ou tel site et difficile à trouver. Et c'était tout simplement des Google Forms, donc ultra basiques, très discrets et en fait très peu accessibles. Alors certes, l'État n'a plus d'argent, mais à ce point-là, on est surtout dans la volonté de ne pas récolter l'avis des Français. Et j'ajouterais que forcément, la conséquence, c'est que l'édite réunion ne rassemblait que quelques personnes. La plus importante a rassemblé à peu près 80 personnes, 70 personnes, mais elle était en visio. Donc très limité du fait de la qualité des connexions personnelles, par la possibilité d'intervenir, par le temps de parole, parce qu'il est très facile, bien sûr, de couper le micro et de passer au suivant. Donc tout ça a été plus que restreint.
Et alors sur les thèmes abordés, qu'en est-il? Parce qu'il me semble que c'est très important, puisqu'il révèle où veut aller le CCNE, c'est-à-dire en fait les politiques.
Alors effectivement, le CCNE est aux ordres des politiques et il ne sert qu'à une seule chose, c'est à faire croire au grand public qu'on est dans l'éthique. Alors là, les thèmes ont été multiples, très nombreux, mal formulés, un espèce de pot pourri de sujets. Je vous en cite quelques-uns. La stimulation cérébrale profonde, les tests génétiques en libre accès, la santé, l'environnement et le climat, la procréation sur laquelle je reviendrai. Nous avons noté aussi des sujets vagues, mais d'un vague inquiétant. Par exemple, la sobriété en médecine jusqu'où traiter. La génomique, par ailleurs, sujet extrêmement vaste. Les enjeux éthiques du vieillissement des personnes handicapées. Il y a de quoi s'inquiéter. Ou encore la transplantation d'organes, le don d'organes et de tissus, les allogreffes. Les allogreffes, il faut savoir que ce sont les greffes animal-homme.
Oui.
Honnêtement, comment faire croire que les Français sont réellement consultés dès lors qu'il n'y a pas de communication, que c'est difficile à trouver, que dans une grande ville, un ou deux seulement de ces sujets sont traités et qu'au final, on est dans le vague? Parce que je vous ai donné les intitulés, mais en dessous, il n'y a pas de chapeau qui explique plus précisément l'objectif.
Alors, il nous reste une ou deux minutes, Ludovine de La Rochère, et sur la procréation, donc, quel est votre constat?
Alors, la procréation était étonnamment peu traitée. Il était difficile de trouver les réunions qui portaient sur la procréation et cela a été annoncé, cela a été indiqué sans aucune précision. Alors, en fait, pour participer, pour en savoir plus, il fallait participer, pas d'autres moyens, et on retrouvait toutes les revendications LGBT et progressistes classiques, la PMA pour les personnes trans. Au passage, la PMA post-mortem, la ROPA, qui est une technique de procréation, de bricolage de la procréation au sein des couples de femmes, une antichambre de la GPA, et enfin, la gestation pour autrui. Et ainsi, de manière assez discrète, le CCNE avance vers la GPA. Il construit petit à petit, il prend la direction, il prépare son argumentation. Et enfin, comme tous les animateurs de ces réunions étaient, pour la quasi-totalité, totalement favorable à toutes ces transgressions. Évidemment, on était dans tout, sauf dans un débat. Et au final, le CCNE publiera donc un rapport d'ici quelques jours sur ces EGB 2026. Il n'aura absolument aucun intérêt puisqu'il consistera à s'auto-congratuler d'une prétendue consultation. elle n'aura été qu'une mascarade, un faux semblant du début à la fin, du théâtre en visio, une consultation bidon, partant dans tous les sens, sans cohérence. Les enjeux éthiques actuels sont pourtant majeurs. Cette séquence est un véritable scandale.
Ludovine de la Rochère, on devait traiter aussi le sujet de l'euthanasie. Malheureusement, on arrive un petit peu au bout du temps, peut-être en un mot, donc le 18 juin.
Alors, on attend encore l'avis du Conseil constitutionnel sur la proposition de loi référendaire, donc sur le projet de référendum qui a été enclenché par un sénateur. Cet avis du Conseil constitutionnel pour valider ou non le projet devrait arriver dans les heures qui viennent, par conséquent. Et il y a une nouvelle lecture après l'échec de la CMP, il y a une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Il y a eu, entre lundi et hier soir, l'examen en commission des affaires sociales. Cette commission n'a à peu près rien changé au texte. Elle étudiait celui de la deuxième lecture à l'Assemblée, puisque le Sénat a rejeté. Et elle n'a fait que l'empirer encore un peu, puisque maintenant, chaque patient choisirait entre euthanasie ou suicide assisté, c'est-à-dire que les médecins sont complètement et totalement piétinés. La seule chose étant que le délit d'entrave a été supprimé. Mais on prend une voie extrêmement inquiétante.
Mais gardons espoir, Ludovine de la Rochère.
Gardons espoir, ce n'est pas fini, voilà. Et il va se passer encore bien des choses sur ce sujet-là.
Et on vous retrouvera la semaine prochaine pour en parler. Merci
Absolument.
Beaucoup, Ludovine de la Rochère.
Merci, Alexandre.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous retrouvons, comme toutes les semaines, Jean Messia. Jean Messia, bonjour, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, bonjour Alexandre, bien sûr, et bonjour aux auditeurs.
Alors, tout d'abord, vous vouliez revenir sur un sujet dont on a beaucoup parlé cette semaine ici à notre antenne, c'est l'onde de choc provoquée par le viol et le meurtre de la petite Liana, qui, comme vous me le disiez, hein, mais ne semble pas retomber. Il y a eu des manifestations dans toute la France, Alice Cordier nous en parlait tout à l'heure, des réactions politiques. Mathias Renaud, député du Rassemblement National, évoquait la position de son parti sur le sujet. Quelle est la vôtre de réaction, Jean Messia ? En fait, il y a une question qui revient énormément et à laquelle on a des réponses tout à fait contradictoires sur les personnes qu'on invite, même ici à notre antenne. Qui est coupable ?
En fait, le coupable, c'est tout un système dont on dénonce de manière parcellaire, ça et là, toutes les défaillances lorsqu'elles se manifestent. Donc c'est à la fois, je dirais, les dysfonctionnements d'une justice qui a appris depuis longtemps à plus veiller sur le droit des coupables que sur le droit des victimes. Donc une forme de laxisme à la fois. Alors certains évoquent un manque de moyens, c'est probablement vrai, mais les moyens sont souvent relatifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas importer une violence et une délinquance étrangère colossale qui est surreprésentée dans les statistiques nationales de délinquance et de criminalité, parce qu'une fois qu'on a dit ça, quelle est la traduction de cette surreprésentation dans les chiffres ? C'est que c'est aussi une surreprésentation dans les tribunaux, une surreprésentation dans les commissariats. Et je ne parle même pas de la surreprésentation de l'immigration dans d'autres domaines, mais en tout cas dans ceux qui nous intéressent ce matin, pour ce qui concerne le travail de la police et le travail de la justice, il y a une surcharge. C'est-à-dire que si vous mettez 10 moyens supplémentaires, mais pour avoir une surcharge permanente de 40 en plus, ouais. Les moyens, c'est un tonneau des Danaïdes, si vous
mais
voulez.
Alors,
ça ne sera jamais assez.
Justement, Jean Messier, il y a eu un constat qui a été fait en même temps que cette affaire ces derniers jours, c'est que la France est un des derniers pays d'Europe en termes d'investissement dans la justice, que c'est un budget qui a été raboté dans les perspectives d'économie de la part du gouvernement Le Cornu. Finalement, est-ce que c'est dans la justice qu'il faudrait mettre beaucoup plus de moyens ?
Alors oui, mais cela ne va pas sans une réforme générale et globale de la justice.
Oui.
C'est-à-dire qu'on voit bien, si vous voulez, que la justice française aujourd'hui pose un problème. Et d'ailleurs, si l'onde de choc de l'affaire Liana est à nul autre pareil, parce que, hélas, des drames comme ceci, la France en a déjà vécu.
Puis comme disait Marine Le Pen, d'une certaine façon, c'est un petit peu la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a sans doute beaucoup d'affaires Liana qui sont actuellement en cours et dont on n'a pas entendu parler.
Probablement. Donc, si vous voulez, il faut évidemment réformer la justice, il faut engager bien évidemment la responsabilité des magistrats. Comment se fait-il que les magistrats soient le seul corps de métier en France qui ne rende compte de rien et qui n'est responsable de rien ? Si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes salarié, si vous êtes médecin, si vous êtes avocat, quand vous commettez une faute lourde, ou même une faute simple d'ailleurs, vous devez rendre des comptes qui vont jusqu'au licenciement. Mmh. Les magistrats sont comme des diplomates en fait. Ils ont des privilèges et des immunités, alors même qu'ils rendent leur jugement au nom du peuple français. D'abord, ils ne rendent plus leur jugement au nom du peuple français, mais en plus, ils n'en ont rien à carrer. Puisque de toute façon, le peuple français, comme ils sont responsables devant rien ni devant personne, ils en ont rien à foutre. Voilà la vérité. Mmh. Et donc, ils rendent des jugements en fonction de leur lubie idéologique, en fonction de ce qu'ils croient être le bien, etc. Mais certainement pas au nom du peuple français. Ils rendent leur jugement désormais au nom du peuple islamo-gauchiste, en quelque sorte. Et quand on sait que la pensée de mai 68, qui a dépénalisé, non pas juridiquement, mais moralement, la pédophilie, je voyais encore ce spectacle ignoble, si vous voulez, parce qu'il y a aussi tout le terrain qui prépare à la pédophilie. C'est-à-dire, quand vous envoyez des drag queens dans des écoles, vous avez vu ce spectacle affreux dans une école à Saint-Quentin, dans l'Aisne, où vous avez des drag queens qui miment des fellations et qui font des gestes obscènes devant des gamins de 4-5 ans. Excusez-moi, alors c'est pas de la pédophilie. Mais quand on en arrive là, si vous voulez, il est difficile de croire que vous ne préparez pas un terrain fertile pour rendre la pédophilie presque décontractée d'une certaine façon. Et c'est véritablement là le scandale. Donc, c'est d'abord l'idéologie de mai 68. J'invite d'ailleurs vos auditeurs à aller lire le papier que j'ai publié dans Valeurs Actuelles sur l'IANA et qui regroupe en fait toutes les réponses à cette question. C'est une réponse idéologique, d'une idéologie qui gangrène nos institutions en général et la justice en particulier. C'était un manque de moyens, mais qui est aussi lié à d'autres facteurs. Ce sont des dysfonctionnements. Et alors, pourquoi cette onde de choc sur l'IANA, par exemple, et pas sur Lola ? Vous voyez bien qu'en fonction du profil du criminel, il y a toujours une partie de l'échiquier qui s'abstient.
Oui, non, mais voilà. Enfin, après, d'une certaine façon, on pourrait dire que la gauche n'est pas particulièrement mobilisée non plus sur l'affaire l'IANA, enfin, pas beaucoup plus que sur l'affaire...
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Ah oui ?
Je ne suis pas d'accord avec vous. Si justement l'onde de choc ne retombe pas, c'est que cette fois-ci, permettez-moi, il n'y a pas de bouclier communautaire. Oui. Et ceux qui disent d'habitude c'est de la récupération d'extrême droite, ils ont perdu leur langue. Parce que là, si vous voulez, comme par hasard, les couleurs de l'agressé, enfin en tout cas de la victime et du coupable, sont dans les bons godets de la palette idéologique. Donc personne ne moufte. Mmh. Donc la France insoumise a dénoncé, la gauche a dénoncé, et la différence, si vous voulez, c'est que les droites, elles pleurent toutes les victimes. Les droites avaient pleuré Chahinez, la victime atroce de féminicide il y a quelques années, là où d'ailleurs la gauche s'était un peu abstenue, précisément parce que son meurtrier n'était pas à la bonne couleur. En tout cas, les gauches, elles ne pleurent pas toutes les victimes. Donc quand on accuse les droites de hiérarchiser les victimes, c'est un mensonge éhonté. Ceux qui hiérarchisent les victimes en fonction de la couleur de peau des coupables, c'est bien la gauche.
Ouais.
Parce que si, effectivement, le meurtrier, le violeur de l'IANA avait été un racisé, jamais la France insoumise n'aurait dit la moitié, ni le quart de ce qu'ils ont dit à propos du meurtre de l'IANA. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose de scandaleux. Et donc pour la première fois, l'onde de choc traverse les courants politiques et en plus... les médias aussi s'en saisissent. Vous voyez bien que les médias...
Mais tant mieux, d'ailleurs.
Et tant mieux, les médias du système parlent quand même avec beaucoup plus d'aisance et ont l'alarme beaucoup plus facile sur l'IANA que sur Lola, où la meurtrière ayant été une Algérienne sous OQTF, l'alarme était presque raciste.
Mais c'est vrai que ces temps-ci, on entend moins parler de récupération, c'est étonnant.
Ben, je viens de vous dire pourquoi.
Oui.
Précisément parce que le meurtrier est de souche et la victime est de souche.
Oui.
Donc là, c'est atroce à dire, hein, mais presque ça arrange tout le monde.
Oui.
C'est affreux. Parce que comment la gauche humaine, la gauche qui se pare des oripeaux de l'humanisme dégoulinant, de l'universalisme, celle qui s'intéresse à toutes les victimes, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion. Comment cette gauche bascule aujourd'hui dans un tri criminel entre les victimes en autorisant les larmes pour certaines et la colère et pas pour d'autres. Donc, gageons, si vous voulez, que ce martyr de la petite Liana est l'onde de choc qui ne retombe pas. Gageons que ça produise un électrochoc dans nos institutions pour qu'enfin les choses changent.
Mais le problème Jean-Messia, c'est
une réforme de la justice.
Ouais, mais le problème Jean-Messia, c'est que en réalité, tout le monde se renvoie la balle. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, lui de son côté, explique que c'est globalement la faute des magistrats. Les magistrats expliquent que c'est parce que ils ont pas assez de moyens. La gendarmerie, elle, n'est pas non plus toute blanche dans cette affaire parce qu'elle a quand même pas réagi à plusieurs reprises. D'une certaine manière, on a l'impression que finalement c'est quelque chose de très français qu'on observe dans bien des domaines. Hein. On l'observait aussi dans le périscolaire parisien, mais c'est la faute de personne. Et puis même quand vous dites c'est la faute du système, en réalité, vous avez bien sûr raison, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut une refonte globale, mais dans le fond, il n'y a jamais de coupable.
En fait, vous savez, dans cette histoire, comme dans les autres d'ailleurs, dans ce drame, il y a deux choses. Il y a évidemment les responsabilités circonstanciées et individuelles et institutionnel qu'il faut rechercher. Ça, c'est évident. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit le procureur de la République à Auch, que ce soit d'ailleurs jusqu'au ministre lui-même, pourquoi pas. Oui. Donc, il y a, si vous voulez, la recherche des causes, je dirais, microéconomiques. Et puis ensuite, il y a la recherche des causes macroéconomiques, étant entendu que le systémique n'est jamais la somme des défaillances individuelles de la chaîne. Voyez, et donc c'est tout ça qu'il faut penser, parce que moi je crains, et vous avez tout à fait raison de le souligner, je crains que comme d'habitude on débranche quelques fusibles pour répondre à la juste et légitime colère et à la juste et légitime vindicte populaire autour de cette affaire, mais qu'en réalité rien ne change.
Oui.
C'est pour ça que...
De toute façon,
que
on est à un an de la présidentielle, on sait très bien qu'on pourra jamais mettre en place une grande réforme judiciaire d'ici là, donc d'une certaine façon, bon, ça va sans doute s'enterrer le reste.
Oui, mais dans ce cas-là, les mêmes causes produiront, hélas, les mêmes effets.
Ouais.
Voilà, mais... et donc, si vous voulez, il faut... On ne pourra pas réformer la justice sans référendum, de toute façon, et là, vous avez tout à fait raison, ce référendum ne sera possible qu'après une élection présidentielle, puisque précisément... la justice est jugée partie aujourd'hui de ces réformes. C'est-à-dire que si vous proposez une réforme par la loi, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, ce qui s'appelle aussi la justice, vont les freiner. Donc vous ne pourrez pas réformer la justice avec la justice. Il va falloir réformer la justice avec autre chose, c'est-à-dire sur le plan politique, et ce sont les Français qui auront, à travers un référendum, à se prononcer pour une réforme de la justice qui, encore une fois, ne peut pas se faire avec les juges qui sont de toute façon contre, puisqu'on leur enlève des droits.
Alors, oui, bien sûr. Non, mais Jean Messia, vous avez raison. Je pense qu'on est d'accord sur le constat. D'un autre côté, vous vouliez parler aussi. Je vous coupe parce qu'il nous reste 6 minutes et qu'il faut bien les exploiter. Le deuxième sujet que vous vouliez aborder, c'est donc la mort de. Enfin non, pas la mort, mais justement cette agression très violente qui a eu lieu à Belfast, où un homme d'origine soudanaise et non pas somalienne, il me semble. Soudanaise, a donc tenté de décapiter un homme en pleine rue. En a été finalement empêché par deux personnes, donc deux voisins. Et puis, alors, ce qui s'est passé, c'est que tout ça, c'était lundi soir et mardi soir, il y a eu de violentes émeutes de nuit à Belfast. Émeutes qui ont mené quand même à des violences, au fait que des maisons qui habitaient des migrants ont été agressées, caillassées, voire des voitures brûlées aussi. Comment est-ce que vous analysez ça?
Où sont ceux qui parlaient de juste colère et de soif légitime de justice quand le délinquant multirécidiviste Naël a été mis hors d'état de nuire par la police. Lorsque vous aviez des commissariats qui étaient pris d'assaut, plus de 1300 policiers et gendarmes blessés, 1 milliard, presque 1,2 milliard de dégâts.
Donc j'en déduis que
5 semaines d'émeutes.
Donc j'en déduis que par cohérence, vous condamnez aussi les émeutes qui ont eu lieu à Belfast.
Je condamne toutes les émeutes, mais je m'étonne, si vous voulez, qu'on appelle émeutes d'extrême droite et néo-nazis et criminels des émeutes lorsqu'il s'agit de défendre un citoyen de souche et qu'on adopte une espèce de phraséologie tiers-mondiste et communiste lorsqu'il s'agit d'émeutes racisées. Qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez ? Je pense que les émeutes de Belfast sont quand même un peu plus légitimes que les émeutes qui ont eu lieu après la mort d'un délinquant. Vous savez que l'Écossais qui a été victime de cette tentative de décapitation a été éborgné au couteau et qu'il a perdu l'usage de son autre œil,
ouais.
avec des plaies abominables au visage.
Mmh.
D'accord ? C'est une personne vulnérable, innocente, qui n'avait jamais fait de mal à personne et qui est prise à partie dans une tentative de meurtre absolument abominable par un migrant soudanais. Et ce n'est pas la première fois, entre les grooming gangs, les tentatives de viol des jeunes filles britanniques ou même en Irlande. Alors là, c'est l'Irlande du Nord, donc c'est la Grande-Bretagne, mais en Irlande, c'est pareil. Donc, si vous voulez, pourquoi considère-t-on comme légitime le fait pour toute une communauté de se rebeller et d'organiser des émeutes lorsque l'un des leurs, fut-il la plus horrible des ordures criminelles et délinquantes, est agressé ou tué ? Et pourquoi faudrait-il que lorsqu'un innocent est tué, pourquoi faudrait-il criminaliser une colère qui, pour le coup, est une colère juste, une colère légitime, même si, dans son expression, il peut y avoir, évidemment, des aspects totalement répréhensibles et totalement critiquables.
Ouais, et
voilà.
Mais oui, donc effectivement, ça, il y a un deux poids, deux mesures qui est évidemment incontestable. Mais dans le fond, ces réactions populaires, alors il y en a eu certaines violentes, bien sûr, mais d'autres qui ne l'étaient pas. Ma question, c'est en fait, comment est-ce que vous expliquez que, par exemple, ces choses-là n'existent que dans les îles britanniques, n'existent jamais en Espagne, n'existent jamais en France, n'existent jamais en Allemagne, n'existent jamais aux Pays-Bas ? Comment ça se fait que ces pays-là, finalement, soient le théâtre de ces révoltes populaires contre les crimes de l'immigration ?
Ben parce que je pense que l'Angleterre, de par son multiculturalisme et son idéologie multiculturaliste, a été un pays beaucoup plus permissif. C'est aujourd'hui un pays beaucoup plus envahi. C'est aujourd'hui un pays dont les institutions sont gangrénées par des tribunaux de la charia, etc. Donc, si vous voulez, c'est un pays qui est beaucoup plus au pied du mur. Et donc, moi, j'ai toujours dit, si vous voulez, qu'un pays envahi, attaqué dans son ipséité, dans son identité profonde, a des réactions instinctives.
Mmh.
Et ce qui est instinctif est violent. C'est instinctif par instinct de survie, si vous voulez. Et ce qui est instinctif est violent, donc il nous faut arrêter immédiatement l'invasion pour éviter les violences de demain.
Mmh.
Donc aujourd'hui, en France, ça n'arrive pas parce que la France n'a pas encore atteint le degré de gangrène qui est celui de la Grande-Bretagne. Mais justement, je ne veux pas que ça atteigne ce degré parce que je ne veux pas non plus voir arriver ce type de violence en France.
Mmh.
Parce que c'est ce qui ne manquera pas d'arriver. Il ne faut pas croire que les peuples européens se laisseront euthanasier en étant sous sédation identitaire profonde et continue, sans jamais se réveiller. Ça arrivera. L'émeute n'est pas l'apanage des racisés.
Mmh.
Les violences ne sont pas l'apanage des populations immigrées en France. Il y a un volcan identitaire qui couve dans nos pays et qui, lorsqu'il explosera, si on le laisse exploser, fera de très gros dégâts et fera couler beaucoup de sang. Et je rends responsable aujourd'hui nos dirigeants politiques depuis une quarantaine d'années d'avoir vu venir ce désastre et non seulement de ne pas l'avoir empêché, mais d'avoir continué à travers leur politique migratoire criminelle, eh bien, d'accélérer jusqu'à cette fin, qui ne manquera pas d'arriver. Voilà.
Ouais.
Vous savez, si nous étions dans des pays normalement constitués, tous ceux qui ont dirigé la France depuis une quarantaine d'années, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, devraient être traduits devant un tribunal pénal national pour haute trahison. Parce que quand je regarde, si vous voulez, la France de mon enfance, la France des années 70, et que je regarde ce que la France est devenue, c'est pas un phénomène météorologique, si vous voulez. Il y a des responsabilités derrière cela.
Jean Messia, on finira avec ces mots, voilà, avec cette conclusion. Il faut une réforme de la justice, il faut trouver les coupables. Il faut également, effectivement, que ceux qui nous ont mis dans cette situation, un jour, comprennent ce qu'ils ont fait. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on vous retrouve jeudi prochain, ici, à notre antenne.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite. La chronique de Lorient simplifié.
Et nous retrouvons pour cette chronique Jean Vallier, directeur de la communication de SOS Chrétien d'Orient. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors ça fait 100 jours que la guerre a commencé au Liban. Où en est-on aujourd'hui ?
Effectivement, cela fait 100 jours que la guerre a commencé et elle est plus présente que jamais. Depuis la fin du mois de mai, le début du mois de juin, les attaques du Hezbollah et l'offensive israélienne ont redoublé d'ampleur. Ainsi, les bombardements continuent dans la Bekaa, ils ont touché les quartiers sud de Beyrouth, mais concernent surtout le sud Liban, jusqu'à Tyr, jusqu'au district de Sidon, qui est quand même situé à 50 km au nord de la frontière israélienne. En fin de semaine dernière, de nouveaux villages du sud ont reçu des ordres d'évacuation forcée. Dimanche, je le disais, Beyrouth était frappé en réponse à des tirs du Hezbollah. Lundi dernier, le 8 juin, l'armée israélienne a lancé pas moins de 40 raids sur le Liban. Mardi, 73 frappes ont été comptabilisées. Mercredi, 30 villes et villages libanais ont été visés. La nuit dernière et ce matin même, l'armée israélienne poursuit son offensive à la fois aérienne et terrestre. Notons aussi que mardi dernier, l'armée israélienne demandait l'évacuation de la ville de Tyr. 40 000 habitants quand même, sans compter les déplacés qui s'y sont réfugiés. Et nouveauté, le quartier chrétien, qui était épargné jusqu'alors, est désormais lui aussi visé par cet ordre d'évacuation forcée. Et les bombardements, évidemment, se multiplient. On compte donc désormais, selon le bilan officiel du ministère de la Santé libanais, 3600 morts et plus de 11 000 blessés. Et si je ne dois en citer que quelques-uns, permettez-moi de donner le nom de la famille Karam, le père, le docteur James George, le fils Tony, 23 ans, et la fille Théodosia, 20 ans. Tous les trois rentraient dans leur village de Klaya, dans le sud du pays. Ils arrivaient de Beyrouth, où Théodosia venait de passer de ses examens. Elle était étudiante à la faculté libanaise. La voiture a été visée par un drone israélien et tous les trois sont morts sur le coup. Leur nom s'ajoute donc à tous ces martyrs, comme on dit en Orient, du village. Et souvenons-nous que ce même village chrétien, plutôt hostile au Hezbollah d'ailleurs, avait perdu son pasteur, le père Pierre Rail, au début de la guerre.
Tout cela est effectivement assez dramatique. Vous parlez de bombardements, de victimes, d'évacuations forcées et pourtant... Un cessez-le-feu avait été annoncé la semaine dernière.
Et oui, un cessez-le-feu avait été annoncé la semaine dernière, le 4 juin exactement, suite à des pourparlers qui avaient lieu à Washington entre Israël et le gouvernement libanais. Et effectivement, à l'issue de ces discussions, un cessez-le-feu avait été annoncé. Ce n'est d'ailleurs pas le premier. Oui. Déjà, à la mi-avril, une trêve a été promise. En réalité, elle n'avait permis que de ralentir les bombardements israéliens sur Beyrouth. Cette fois-ci, nous n'en sommes même pas là. D'un côté, nous avons le Hezbollah qui refuse tout cessez-le-feu qui ne serait pas global et qui ne serait pas accompagné du retrait d'Israël du Liban. La milice chiite continue donc ses opérations militaires. Et de l'autre côté, nous avons un premier ministre israélien qui a déclaré à ses ministres, je le cite, « il n'y a actuellement aucun accord puisque le Hezbollah s'y oppose ». Certains ministres israéliens sont d'ailleurs totalement contre. Je pense par exemple à Itamar Ben-Gvir, qu'on a déjà cité ici, le ministre de la Sécurité nationale, un militant sioniste religieux expansionniste qui estime que, je le cite aussi, la cessation des hostilités avec le Liban est une grave erreur. Aussi, dimanche dernier au soir, l'armée israélienne annonçait poursuivre ses opérations dans tout le Liban avec les conséquences que je viens d'évoquer il y a un instant.
Alors au milieu de ce chaos, quel est le quotidien des Libanais aujourd'hui ?
Vous imaginez, cher Alexandre, que pour tous les Libanais touchés par la guerre, la vie quotidienne est plus que difficile, aussi bien pour les déplacés que pour ceux qui sont restés dans leur village. Les premiers sont installés depuis 100 jours maintenant dans des centres d'accueil, des centres d'urgence. Ils ont été contraints de partir chez eux, tout laisser derrière eux en quelques instants. Et impossible pour eux d'envisager un retour pour le moment. Surtout si les villages sont dans la fameuse zone tampon qu'Israël crée tout au sud du Liban pour se protéger des roquettes du Hezbollah. Et un retour pour trouver quoi ? Un village détruit ? Une maison en ruine ? Une église en ruine également. Alors évidemment, le provisoire s'installe. Et quant à trouver du travail dans la région où on est réfugié, c'est une gageure. Quand on est agriculteur dans le sud Liban, travailler dans une grande ville comme Beyrouth, on l'imagine, c'est compliqué. Pour ceux qui sont restés dans les villages des Sud, la vie n'est pas facile, évidemment, c'est un euphémisme de le dire. Ils sont privés de tout ou presque. Ils vivent en pleine zone de guerre, les bombardements israéliens sont quotidiens. Il est dangereux de se déplacer, il est dangereux d'aller cultiver son champ, etc. Et tous dépendent de l'aide humanitaire. Nous étions en contact en début de semaine avec le président de la municipalité de Rmeish, une ville chrétienne de 6000 habitants, dans le sud. Celui-ci est bloqué à Beyrouth depuis le début du conflit, et c'est donc depuis la capitale qu'il organise les convois nécessaires pour permettre au village de vivre ou au moins de survivre. Et dès qu'il obtient une autorisation, il fait partir par camion des médicaments, de la nourriture, de l'essence, etc. Mais comme me le confiait une collègue libanaise, les convois d'aide sont malheureusement bloqués parce que les autorisations tardent à être accordées. Même transporter les malades vers Beyrouth, ils doivent parfois attendre une semaine avant d'obtenir l'autorisation. Ainsi, à Rmeish, qu'on évoquait il y a un instant, 15 personnes attendent d'être évacuées. Et ma collègue de conclure, oui, la situation dans les villages est très préoccupante et alarmante. Et permettez-moi de conclure cette chronique avec les mots de Mgr Georges Iskandar, un ami de SOS Chrétien d'Orient, archevêque grec melkite catholique de Tyr, qui est resté auprès des siens dans son archevêché de Tyr, malgré les ordres d'évacuation. Il écrit sur les réseaux sociaux « En ces temps difficiles que traverse le sud Liban, nous affirmons notre enracinement à Tyr parmi les nôtres, à l'instar de nos ancêtres avant nous et à l'image des fils fidèles du sud qui demeurent aujourd'hui sur leur terre, dans leur village et leur ville. Notre présence auprès du peuple n'est pas un choix basé sur les circonstances, mais bien une partie intégrale de notre mission et de notre devoir national, humanitaire et spirituel. Nous partageons avec notre peuple ses joies, mais aussi ses angoisses, ses souffrances et ses espoirs. Nous n'abandonnerons pas cette ville bénie par Jésus-Christ, qui avait foulé sa terre, cette ville qui, historiquement, a constitué un exemple de foi et de résilience. Le martyr du Sud-Liban se poursuit.
Mais gardons l'espoir. Merci Jean Vallier d'avoir été avec nous ce matin. Et on vous dit peut-être à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Alors Gilles, vous n'êtes pas ici, vous êtes par téléphone. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Deux gros titres aujourd'hui alimentent les journaux, la chute de Patrick Bruel et l'ouverture de la Coupe du Monde de football. La presse est partagée entre ces deux titres.
Oui, alors premier match ce soir, hein, c'est Mexique-Afrique du Sud, mais le Parisien consacre pas moins de 9 pages à cette Coupe du Monde. Les Échos annoncent en gras les Bleus en route pour la Coupe du Monde, la plus lucrative de l'histoire. Libération 4 pages avec en une ce gros titre mondial de 2026, « Se prendre au jeu ». Le Télégramme titre à la conquête de l'Ouest, la croix, même la croix, la magie du ballon rond, en annonçant dès sa une que le football se révèle un fédérateur sans équivalent, mais pas sans problème, parlant de parenthèses enchantées en page intérieure. Et le Figaro fait l'ouverture du journal sur 3 pleines pages, la 23e édition de la compétition planétaire qui débute ce jeudi à Mexico pour s'achever dans près de 6 semaines à New York, bascule dans la démesure et va battre tous les records en tout genre. Et le Figaro décrire, après 48 équipes et 104 matchs annoncés du jamais vu, le mondial repousse les frontières de la compétition planétaire. Donald Trump, le président américain, et Gianni Infantino, le patron de la Fédération internationale de football, espèrent en tirer profit alors que le conflit irano-américain s'est invité dans l'arène. Et je précise aussi que le président de la FIFA a rendu hommage à Christophe Glaise, qui croupit dans les geôles algériennes, dans sa conférence de presse, en disant qu'il restait une chaise libre dans la salle et a invité ses parents à assister au match France-Sénégal.
Mais la guerre irano-américaine déteint sur le football.
Oui, ce mardi, écrit Delphine Minoui dans le Figaro, la fédération iranienne est de nouveau sortie de ses gonds en accusant les États-Unis de lui avoir retiré son quota de tickets pour la Coupe du Monde, dénonçant une entrave à la présence de supporters iraniens sur le territoire américain. C'est en effet la première fois qu'un pays participant est en guerre avec un autre pays, enfin un pays d'hôte d'ailleurs, et l'Iran a été l'un des premiers pays qualifiés pour le mondial, raconte encore le Figaro, mais sa participation a vite suscité des remous après le début des frappes israélo-américaines sur le pays le 28 février. Alors dans ce contexte particulièrement tendu, l'habituelle ferveur de la population iranienne autour du foot est moins palpable, alors que les fans du ballon rond jonglent entre crise économique et répression sur fond de nouvelles frappes israéliennes pendant le week-end. Ils attendent avec une impatience beaucoup plus mitigée cette Coupe du Monde, plus que jamais politisée.
Et alors dans ce contexte, quelles sont les chances des Bleus ?
Alors, il faut lire l'entretien donné par Marcel Desailly, champion du monde 98 dans Le Parisien, qui pense que l'équipe de France part favorite. Quand on regarde les individualités, le parcours récent des Bleus dans la compétition, avec une victoire en 2018 et une place de finale en 2022, puis la qualité de la nouvelle génération qui s'est ajoutée à cette existante, à celle existante, c'est impressionnant. Certains visages ont quitté la sélection, mais quand on regarde le potentiel avec tous nos attaquants, il n'y a pas d'équivalent dans le tournoi. Aucune équipe n'a la même qualité sur le front de l'attaque que celle des Bleus. Voilà, c'est dit. Et Michel Desailly ajoute, l'équipe de France doit gagner son premier match. Et ce ne sera pas facile face au Sénégal, champion d'Afrique en titre. Mmh. Restent les rituels, mon cher Alexandre. Vous savez, ceux qui vont suivre ce mondial. Bon, c'est pas tout à fait mon cas. Alors, The Financial Times parle d'un milliard de bières qui vont être bues devant les écrans de télévision par les fans. Le Parisien donne ce chiffre. 80% des livraisons à domicile depuis 15 ans, les soirs de match, sont des pizzas. Mmh. Et pour cause, constate un spécialiste du marché de la consommation alimentaire, quand vous mangez un burger, vous devez vous concentrer sur ce que vous faites. Alors que pendant un match de foot, vous n'avez pas envie de contraintes. Mmh. Pendant un match, ce qui compte, c'est la vue. Rien ne doit l'entraver. Et petite transition. Avant de parler de culture, dans le Figaro littéraire, Étienne de Montetti écrit que le football a donné lieu à de savantes remarques de philosophes ou d'écrivains, de Camus à Umberto Eco. Vous savez, Monterland, dans les Olympiques, salue les heures de poésie que le sport nous fait vivre dans la grâce, la beauté parfois des visages et des corps de jeunesse.
Et alors, vous avez lu le nouveau numéro de Philosophie Magazine qui célèbre les 20 ans de sa création.
Oui, un très très bon numéro. Alors, pour son 200e, Alexandre Lacroix et son équipe a choisi comme thème « On change d'air ». Alors, d'air, E-R-E, exact, précisons, hein, c'est pas A-I-R. Chaque journaliste de la rédaction a choisi de traiter une question qui le préoccupe en ce moment ou qui le hante, avec cette carte blanche pour la traiter à sa façon, accompagné d'un entretien avec une personnalité. Alors, au sommaire, sommes-nous en avant-guerre ? L'océan est-il notre avenir ? Peut-on fermer les yeux sur ses origines? Peut-on vivre sans croire? Où est passé le plaisir? Je ne sais pas ce que vous auriez choisi, mon cher Alexandre, mais en tout cas, la question que pose, lui, Alexandre Lacroix, c'est pourquoi nous ne regardons plus de la même manière les paysages de la Terre? Alors, il écrit, autrefois, les paysages représentaient un socle stable sur lequel les humains n'étaient que des figurants. Notre présence est éphémère, comparée à celle du chêne, sans parler du rocher. C'est la parole de l'Ecclésiaste, reprise dans le beau titre d'un film sur l'écrivain Jim Harrison. Une génération passe, l'autre vient, seule la Terre est éternelle. Mmh. Alors aujourd'hui, avec le changement climatique, avec l'extinction massive des espèces, écrit-il, 68% des populations de vertébrés terrestres ont disparu depuis ma naissance, sans parler des insectes pollinisateurs, écrit-il. Ce qui semble frapper d'impermanence, ce qui fiche le camp, ce sont les entités naturelles, tandis que nous vivons assez longtemps pour assister à la destruction de nombreux écosystèmes. Voilà, c'est signé Alexandre Lacroix, c'est dans le numéro très beau, collecteur un peu, de Philosophie Magazine, et je vous laisse à cette méditation environnementale, mon cher Alexandre.
Qui me plaît particulièrement. Merci beaucoup, Gilles. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de vos revues de presse.
Zone libre.
Et pour cette zone libre, nous retrouvons tout le monde, car tout le monde a décidé de venir dans la joie et l'allégresse pour les 3 minutes qui nous restent. On va profiter de la présence exceptionnelle d'Alice Meunier pour peut-être la solliciter. Alors, vous avez trouvé une actualité, Alice, c'est bien ça?
Non, je n'ai pas trouvé d'actualité.
Mais alors, pourquoi vous êtes là?
Parce qu'on m'a demandé de venir.
Ah oui, d'accord. Donc vous faites acte de présence,
c'est magnifique.
Bah, moi, votre honnêteté vous honore. Non, mais attendez, parce que je voudrais rester sur le sujet. C'est pas normal.
C'est un thème en soi, hein. On peut en discuter.
Oui, non, mais on peut en discuter. Non, mais bon, Richard, vous avez travaillé comme toujours.
François Bayrou va sortir un livre.
Oh merde.
Ça s'appelle Alerte sur la France qui vient.
Aïe.
Alors, je voulais vous lire la présentation du livre. Ce qui arrive en France, nous ne l'avions jamais connu. Une menace qui se prépare, qui grossit depuis 50 ans et que personne n'a voulu voir. La dette nous a rattrapés. Aucun d'entre nous ne sera épargné, mais ce sont les jeunes qui vont payer le plus, et cela en un temps où le monde est devenu imprévisible et violent. François Bayrou est depuis des années le seul responsable politique à avoir vu venir le risque. Mmh. Vous vous rendez compte ?
Ah, oui.
C'est le seul. Comme chef du gouvernement, il a tout fait pour essayer de le conjurer.
Tout.
Et pour cette raison, il a été renversé.
Mmh.
Parker
carrément renversé.
Renversé. Ouais. Il a été renversé. C'est, voilà, c'est à travers le récit de ces 9 mois à Matillon, l'auteur nous livre le combat sans précédent qu'il a mené pour la vérité, le seul chemin pour s'en sortir. En écrivain autant qu'en homme d'action, François Bayrou décrit les femmes et les hommes au gouvernement ou dans l'univers syndical et patronal, et peut-être même à Pau, qui sont les personnages de l'histoire en train de se faire. Il nous montre l'envers du décor, les chances et les pièges, les manipulations dont il n'avait jamais parlé. C'est admirable. Vous vous rendez compte ? Moi, Bayrou, je ne le voyais pas du tout comme ça.
Ah non, moi non plus.
C'est le seul, c'est le seul à nous avoir parlé de la dette.
Oui.
Il a été renversé. Je
vous,
dire,
vous en aviez parlé, vous ?
À peine.
Lui,
personne n'est au courant qu'il y avait une dette en France.
Non, Alice, vous le saviez qu'il y avait une dette ?
Non. Alors, non seulement on ne savait pas avant, mais on l'a oublié depuis. Ce mec a passé 9 mois à nous parler. Il était le seul. Il est le seul à dire qu'il était le seul. Bon, il est vraiment tout seul. C'est vraiment gênant.
Vous pensez qu'il se vendra plus que le dernier livre d'Elisabeth Borne ?
Mais j'ai combien ? 422 ?
226, 227, j'ai un doute. Il y a du niveau.
Ah bah c'est sûr qu'on est très loin des 30 000 exemplaires de Les belles-mères sont-elles de droite aux éditions de Nouvelle Librairie à seulement 14,90 par Richard de Sèze. Ça, c'est sûr que.
Merci. Alors,
mais vous savez quoi ? Vous devriez donner des conseils littéraires peut-être à François Bayrou et à nos hommes politiques, Richard.
Alors, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire.
Pourquoi ? Vous le faites déjà, c'est ça ? C'est ce que vous êtes en train de dire.
Je garderai le silence sur les liens qui auraient pu m'unir à François Bayrou.
Ah, waouh. Cet homme seul. Alors là, je pense, malheureusement, on arrive à la fin de la zone libre, mais je pense qu'on arrive en même temps à l'ouverture d'une grande question. Quels sont les liens entre Richard de Sèze et François Bayrou ? Peut-être que votre chronique de mardi prochain, je l'espère, nous éclairera un peu dessus. Merci d'avoir été avec nous, Louis. Merci Alice. Merci Richard. Et merci à vous, chers auditeurs. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Donc de ce côté-là, on vous laisse. Simplement, vous n'allez pas nous lâcher.
Ne nous lâchez pas et continuez surtout à nous soutenir, y compris financièrement, en nous en dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou bien encore en adressant vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci beaucoup Arnaud, et tout de suite on retrouve Nicolas Battini, la percée du camp national en Corse, c'est ce dont on a parlé avec lui ce matin.
Ligne droite. Debout les Français.
Pour ce premier entretien, donc, nous allons parler de Corse. Ça faisait quelques mois qu'on ne l'avait pas fait. Et comment parler de Corse ici à cette antenne sans invité ? Eh bien, Nicolas Battini. Nicolas Battini, bonjour. Est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Bonjour, je suis bien avec vous.
Alors, je rappelle que vous êtes donc président de Mossa Palatina, mais désormais, eh bien, on vous invite également en tant que conseiller municipal de la ville de Bastia, donc siège que vous avez gagné durant ces dernières élections municipales. Première question justement à ce titre, c'est que vous avez réalisé 16,7% au premier tour, puis 13,8% au second tour. Nicolas Battini, est-ce que c'est pas vous qui avez permis l'élection de votre grand adversaire, Gilles Simeoni ?
Ceux qui l'ont permis, ce sont les électeurs. Je crois qu'il faut s'incliner devant la décision démocratique. Mais vous savez, c'est toujours le dilemme qui se pose à la troisième liste dans le cadre d'un scrutin comme celui-ci. Mais si l'on s'amusait à se retirer pour le deuxième, qui en l'occurrence était autant de gauche que Gilles Simeoni, on arrêterait la politique.
Et alors, justement, cette campagne, finalement, est-ce que vous pourrez nous, parce qu'on ne vous a pas reçu depuis, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous l'avez vécu ? Parce que vous faites un petit peu irruption quand même dans ce paysage politique corse qui est quand même déjà, qui était très tranquille quelque part jusqu'à votre arrivée.
Oui, vous savez, très clairement, la campagne municipale qui a été la nôtre à Bastia, qui a très certainement été en Corse, la plus médiatique et la plus politique, nous a permis, d'opérer deux irruptions. Une première irruption qui est sociologique, c'est que nous avons permis l'entrée au conseil municipal d'un certain nombre de gens comme moi qui sont d'extraction populaire et qui ont disputé à l'élite de gauche et à la bourgeoisie de gauche qui tient à peu près tout aujourd'hui en Corse, ce qui est plutôt paradoxal, puisque les masses populaires en Corse sont tous sauf de gauche, mais c'est un sujet qu'on pourrait développer, notamment à travers le prisme de la langue, de l'identité corse qui a été prise en otage par des mouvements et des pensées de gauche, eh ben, nous avons permis tout simplement de briser cette hégémonie-là à Bastia et de rendre la parole aux classes populaires, notamment aux classes populaires, pas exclusivement, mais notamment qui vivent dans les quartiers sud de Bastia et qui sont plus que toute autre catégorie de la population bastiaise en passe avec les grands problèmes migratoires qui se posent en Corse comme ailleurs. Et la deuxième éruption, eh bien, c'est une éruption doctrinale, idéologique, c'est-à-dire que nous avons désormais posé, à partir du suffrage et de la légitimation démocratique, eh bien, les préconisations qui sont les nôtres, c'est-à-dire la convergence entre des patriotes corses comme moi qui veulent prendre en compte les questions migratoires et qui sont attachés historiquement à des revendications telles que la reconnaissance du peuple corse au sein de la France et l'autonomie, et des patriotes français qui sont d'une tradition éloignés du nationalisme corse, mais qui ont pris en compte les considérations corsistes, identitaires, les revendications culturelles et liées à plus de liberté locale, et qui convergent avec nous sur un socle commun. C'était le sens de l'union et de l'alliance entre le parti que je préside et le Rassemblement national, alliance qu'avait annoncée d'ailleurs, et confirmée plutôt, et entérinée Marine Le Pen une semaine avant le scrutin du premier tour.
Alors, on reviendra un petit peu sur cette alliance plus tard, si vous voulez bien, parce qu'il y a des sujets justement qui s'y prêtent. Juste avant ça, sur justement votre entrée au conseil municipal de Bastia, j'aurais deux questions. La première, effectivement, vous expliquiez que les classes populaires corses, de manière générale et plus particulièrement à Bastia, sont celles qui vont subir de plein fouet les problèmes d'immigration et de pouvoir d'achat, évidemment, qui arrivent dans votre île. Est-ce que vous diriez que Bastia, c'est par exemple Toulon, c'est par exemple Marseille avec 10 ans ou 20 ans de retard ?
Oui, très clairement. Je pense que c'était le sens de notre campagne, en effet. Et c'est évidemment que de devenir Marseille une perspective qui n'attire pas particulièrement les aspirations des classes populaires encore. C'est pas que des classes populaires, d'ailleurs. Non, tout le monde ressent bien qu'il y a une montée de l'insécurité qui est liée directement aussi à l'immigration. Il y a un certain nombre de problématiques qui s'aggravent sous le poids de l'immigration, qui, contrairement aux idées reçues, est en Corse peut-être encore plus importante qu'ailleurs depuis quelques années. Et d'autant plus grave qu'elle s'adjoint au taux de natalité, je parle de la Corse évidemment, le taux de natalité le plus bas de toute la France. On a 1,2 enfants par femme, ce qui est absolument alarmant dans des perspectives à court et à moyen terme.
Ouais, et alors justement, maintenant que vous êtes rentré avec votre parti au conseil municipal de Bastia, est-ce que, ça signifie déjà que vous avez des élus. Bon, maintenant, est-ce que vous avez ces élus, est-ce que vous êtes capable de voir des choses que vous ne voyiez pas avant sur la manière dont est gérée la ville ?
Écoutez, non, nous, plutôt c'est une occasion de nous confirmer ce que nous savions déjà, parce qu'évidemment, par le travail militant qui était le nôtre, nous nous tenions informés d'à peu près tout ce qui se faisait et ce qui se votait au conseil municipal. Mais oui, c'est la confirmation d'un certain nombre de politiques que nous dénoncions. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de nous opposer au dernier conseil municipal à la subvention en faveur de la LDH. Oui. Bon, à peine un conseil après l'augmentation des taxes foncières, chose qui n'avait pas été annoncée pendant la campagne, mais dont nous avions prévenu les électeurs, à raison, apparemment. Donc oui, il est évident qu'aujourd'hui, l'institutionnalisation du mouvement qui est le nôtre, pas seulement à Bastia d'ailleurs, mais également à Ajaccio, à Porto-Vecchio, c'est-à-dire dans les trois conseils municipaux les plus importants de Corse, eh bien, nous permet de développer et d'articuler des politiques qui ne se contenteront pas de la contestation et du témoignage, mais précisément de la mise en place d'une politique alternative, notamment en vue des prochaines échéances.
Ouais, et alors justement, là, votre objectif, ça va également être de dénoncer justement la manière dont est gérée la Corse actuellement. Cependant, les prochaines élections municipales, c'est encore loin. Vous, il y a forcément une échéance en plus de l'élection présidentielle, on va dire, enfin deux échéances qui approchent et qui seront particulièrement importantes pour les Corses, sont bien sûr les élections législatives, mais aussi les élections régionales qui devraient théoriquement arriver en 2028. Vous, comment vous les envisagez justement ?
Ah, nous les envisageons comme la totalité des échéances qui se présenteront dans les mois et les années qui viennent, c'est-à-dire que nous serons présents et organisés selon la même armature que nous avons mise en place à Bastia, Ajaccio, à Porto-Vecchio, c'est-à-dire une plateforme électorale qui réunit Moussa Baladine, mon parti, l'UDR et le Rassemblement national. Et le but étant, en effet, d'insérer notre mouvement, notre plateforme, notre convergence nouvelle, validée par le suffrage depuis le dernier scrutin, à l'occasion de toutes les échéances qui se présenteront.
Ce que je voulais dire, Nicolas Battini, c'est que comme on en parlait tout à l'heure, il y a quand même un système en Corse qui est quand même pas mal verrouillé justement par Gilles Simeoni et qui est pas mal verrouillé par justement cette gauche nationaliste corse. Comment faire justement pour convaincre le reste des Corses, c'est-à-dire qu'à nouveau vous avez fait une très belle campagne, effectivement on a entendu parler même ici à la capitale, mais vous n'avez pas remporté non plus la moitié des suffrages à Bastia, donc quelles sont les prochaines étapes pour vous justement pour réussir à obtenir ces majorités à des législatives ou à des régionales?
Oui, il faut avoir une lecture complète de ce qui s'est passé à Bastia. Nous avions face à nous Gilles Simeoni, qui avait avec lui la majorité municipale, qui a la majorité territoriale, qui a deux députations, qui a la circonscription sénatoriale, qui a la chambre de commerce et d'industrie, et qui a ce qui reste des anciens conseils généraux qui se sont fondus et qui ont fusionné avec la collectivité de Corse qu'il présidait. C'est-à-dire que nous avions face à nous le roi de la Corse.
Toute la Corse.
Et pourtant, Gilles Simeoni ne s'en sort. Gilles Simeoni ne s'en sort au second tour qu'à 400 voix sur 22 000 électeurs. Et nous réalisons dans une partie des quartiers sud de Bastia quasiment le même score que lui. Donc, c'est une dynamique qui est évidemment descendante. Nous arrivons en fin de cycle siméonien. Et notre travail consiste tout simplement à organiser l'après. Et comment allons-nous le faire? Tout simplement en existant et en soumettant au suffrage démocratique les préconisations qui sont les nôtres et en réalisant des résultats qui iront croissants. Il n'y a aucun doute à ce sujet.
Alors, maintenant, autre sujet. Il nous reste 5 minutes à peu près, Nicolas Battini. Évidemment, un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler, il faut dire, ici, dans notre nord lointain. Mais il y a un projet de réforme constitutionnelle pour l'autonomie de la Corse qui est passé en commission des lois donc le 2 juin et qui arrive dans 5 jours à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet justement sur l'autonomie de la Corse?
Vous savez, il y avait déjà une question de principe, quasiment une question doctrinale, qui était essentielle pour nous. Et avec nos partenaires du Rassemblement national, c'était de ne pas s'opposer par le principe à l'autonomie au nom de positions jacobines qui sont complètement ringardes aujourd'hui et qui n'ont plus beaucoup de sens. Et qui d'ailleurs ne correspondent pas aux enjeux de la Corse, parce qu'en Corse, il y a 5% de l'électorat qui souhaite l'indépendance. Tout le reste du corps électoral, et je dirais du corps social en général, n'est pas du tout sur ces questions-là. Il est sur des questions identitaires, peut-être plus de liberté locale, certainement, et une amélioration des conditions de vie des Corses, mais certainement pas l'indépendance. Ça, c'est une vue de l'esprit qui, d'ailleurs, a été imposée par les indépendantistes et qui a provoqué des réactions jacobines particulièrement outrancières, les deux s'alimentant dans un espèce de cinéma mutuel. Bon, nous sommes sortis de là et nous sommes parvenus, en effet, à faire comprendre à Marine Le Pen, à Jordan Bardella, que les enjeux sont tout autres. Nous avons pu travailler, en effet, de concert, notamment avec l'excellent Stéphane Rambaud, qui est le député du Rassemblement national à la Commission concernant cette loi. Et nous sommes en lien permanent avec un certain nombre de responsables du Rassemblement national qui doivent travailler sur le sujet et qui ont avancé des positions qui nous conviennent absolument dans la logique de compromis et de convergence qui est la nôtre. Ne pas s'opposer à l'autonomie, mais proposer une autonomie cadrée, contrôlée par le Parlement et surtout qui a deux objectifs très clairs. Non pas l'éloignement d'avec la France, mais la prise en compte des revendications culturelles et identitaires qu'ont les Corses, et également les nécessités d'adapter un certain nombre de lois pour améliorer les conditions de vie et le quotidien des Corses, quotidien qui, dans une île qui est la plus précaire de France et qui est, en termes de communication et de transport, dans des conditions qui n'ont strictement rien à voir avec d'autres régions, même périphériques ou rurales, sur le continent, eh bien des lois et des possibilités d'adaptation qui doivent permettre de prendre en compte, en effet, un certain nombre de conditions qui sont propres à la Corse.
Sur ces deux dernières minutes qui nous restent, Nicolas Battini, c'est quand même assez incroyable ce que vous avez réussi à faire, parce que ça faisait quand même des années et des années, des décennies, que le Rassemblement National, c'était le parti qui était quand même un peu anti-régionaliste, qui était quand même très jacobin. Vous avez réussi finalement à le rendre ouvert au régionalisme quelque part, à le rendre ouvert justement aux particularités culturelles locales. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est le retour de la thématique identitaire? Est-ce que c'est parce que c'est vous qui avez montré qu'il pouvait exister un nationalisme qui ne serait pas de gauche?
Oui, il y a un peu de tout ça. Vous savez, pour être très bref, je crois au kairos des Grecs, c'est-à-dire le moment venu, l'opportunité, les conditions qui se réunissent de façon sourde parfois, silencieuse, et puis des éléments et des acteurs qui permettent de révéler des changements. Moi, je veux dire quelque chose de très simple. Vous savez, au-delà des grandes dynamiques historiques qu'on pourrait évoquer, j'ai rencontré Marine Le Pen. Marine Le Pen m'a expliqué longuement qu'elle était depuis des années ouverte sur ces questions de liberté locale, de plus d'autonomie, de région à forte identité, mais qu'elle n'avait jamais trouvé d'interlocuteur autre que des gauchistes anti-français localement pour travailler sur ce sujet-là. Bon, je lui ai dit, ça tombe bien, je ne suis pas gauchiste anti-français. Et elle m'a dit, eh bien, c'est parfait, on va pouvoir travailler ensemble. Et je pense qu'en effet, c'est le début d'un profond mouvement de réforme doctrinale concernant les régionalismes au sein du camp national. Il est bienvenu, nous allons le structurer et l'accompagner. Et pour ce qui concerne la Corse, nous allons le rendre incontournable et demain victorieux.
Eh bien écoutez, vous avez déjà posé le premier jalon de cette victoire sans doute avec votre entrée au conseil municipal de Bastia, Nicolas Battini. Donc à nouveau, on vous félicite pour cela et on vous souhaite bon courage eh bien pour cette saison estivale qui est toujours particulière également en Corse. On vous dit merci beaucoup et à bientôt ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, c'est la fin de la matinale d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été fidèle. Certains sont ici depuis 7h, d'autres sont ici depuis hier soir, ça sans doute. Voilà, vous êtes très fidèles, vous nous suivez tous les jours, merci. Et pour continuer à nous suivre, eh bien nous avons besoin de 98% d'entre vous.
Il faut que l'aventure Radio Courtoisie perdure, pour cela nous comptons sur votre soutien financier. Merci de nous faire des dons en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr et d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Voilà, merci beaucoup Arnaud. Dites-nous quand même quel est le programme du jour.
Alors dans un instant, vous pourrez suivre Art et Affinité dirigé par Marie-Christine Lagnier à midi en direct. Libre journal d'Arnaud Guyot-Janin, le Rassemblement National vire-t-il au libéralisme, avec Michel de Saint-Pierre, écrivain catholique français, aristocrate et ouvrier dans sa jeunesse. À 17h, Sursum Corda de l'abbé Mathieu Raffray, consacré au credo. 17h30, Restons Courtois, dirigé ce soir par Marc Hainaut. Un programme dense avec une actualité politique, judiciaire et littéraire. Tout d'abord, Mélenchon face à un plafond de verre. La part d'ombre des grands hommes avec le dernier ouvrage de Christine Goguet et puis Gilbert Collard pour un point sur l'affaire Liana où se situent les véritables responsables. Le bal des facétieux, ce sera en direct avec Charles-Henri Desnois à 19h30. Est-ce la fin de la propriété avec maître Olivier Duparc, notaire à Paris? Et puis enfin ce soir à 21h30, toujours en direct, le libre journal des littératures dirigé par Hector Burnouf, le drame roumain au XXe siècle entre Nicolae Ceaușescu et la garde de fer, vu par Traian Sandu, Marilena Lica Mazala et Jérôme Bénard.
Eh bien, ça fait envie tout ça. Et puis moi, de mon côté, eh bien, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Je vous dis plus précisément à demain pour ma chronique bête et pour la matinale beaucoup plus intelligente de Richard.
À demain.